Vous recherchez une formation vraiment enrichissante? Les Compagnons du Tour de France vous invitent à leur journée portes ouvertes. Avec des formateurs passionnés et des centres dans toute la France, les Compagnons du Tour de France vous proposent des parcours d'excellence dans les métiers d'art et du bâtiment pour les jeunes dès 14 ans et des formations professionnelles pour les adultes. Pour connaître toutes les dates des portes ouvertes près de chez vous, rendez-vous sur compagnonsdutourdefrance.org. Les Compagnons du Tour de France, la transmission des savoir-faire. Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Et on commence avec l'augmentation du jour, Thibault.
Et oui, c'est celui de la cigarette. Ce matin, sur RMC et BFM TV, Elisabeth Borne annonce la hausse du prix du paquet indexé sur le prix de l'inflation. Alors, c'est déjà le cas actuellement, mais basé sur l'inflation d'il y a deux ans et plafonné à 1,8%, vendu autour de 10 euros aujourd'hui. Le prix pourrait donc bondir de 6,5%, soit 65 centimes d'augmentation.
Est-ce que c'est une bonne chose, Emmanuel Dancourt, l'augmentation du prix de la cigarette ?
On a eu un débat la semaine dernière, sur ce plateau. Moi, je suis pour, parce qu'on sait qu'en termes de santé publique, ça a des conséquences. Après, j'étais pour aussi qu'il passe carrément à 20 euros pour que ça ait des vraies conséquences et que les vrais addicts, les vrais accros puissent essayer de décrocher, s'appuyer sur ça pour essayer de décrocher et puis sauver leur vie et puis celle de leur environnement, parce qu'il y a aussi beaucoup de cancers à cause du tabagisme passif. Donc, pour moi, c'est une bonne chose.
Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Marie? Ah, oui. Il fallait aller encore plus loin.
Je suis mal placé pour parler, je suis un non-fumeur. Un vétéré, jamais fumé de ma vie.
Pareil.
Mais si vous suivez pas en période quand il n'y a pas d'inflation, vous pouvez avoir un décalage de deux ans, ce sera toujours la même chose. Mais en période de forte inflation, si c'est le seul produit qui n'augmente pas parce que son prix est régulé par l'État,
c'est comme s'il baissait.
On marche sur la tête, c'est comme s'il baissait. Tout le reste pourrait augmenter autant qu'il veut, sauf l'énergie, qui est un bien indispensable. Fumer, c'est pas un bien indispensable. Donc c'est normal que ça suive l'inflation en temps réel dans cette période de grosse inflation.
Elle a raison, Elisabeth Borne, d'avoir fait cette annonce, Jericho.
C'est une mesure gauchiste pour empoisonner les riches. Il y a plus que. Non, mais je vais tourner en dérision. À un moment donné, il n'y a plus que qui pourront se le payer. On est d'accord. Donc le cancer sera accessible uniquement aux riches. Les pauvres n'auront plus de cancer. Vous voyez l'aberration. Qu'on supprime le tabac. On me dit non, parce qu'il va y avoir un marché parallèle, voilà.
80% de taxes sur le tabac.
Oui, mais
d'accord. Après, ça fait vivre l'État aussi.
Comme au Canada, où par exemple, c'est caché. Il n'y a pas de tabac sur la voie publique. Tout est caché dans les petits magasins qui vendent justement le tabac. On n'a pas le droit d'exposer.
C'est pareil
tabac.
Pour l'alcool aussi.
On n'a pas le droit de fumer à X mètres d'une porte. On n'a pas le droit de fumer sur les terrasses. Enfin, voilà, il y a plein d'interdictions
en France.
Qui ne passent pas par le prix.
Oui, mais le problème en France, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux acheter un paquet de clopes pas cher, tu vas pas chez ton bureau de tabac. Enfin, tu vas pas chez ton buraliste. Tu vas acheter tu vas à la sortie du RER et tu vas acheter une cartouche.
Et donc, du coup, si on t'empêche de fumer dans la rue, sur les terrasses, à X mètres d'une porte, du coup, ça peut créer aussi des solutions.
Tu as entièrement raison.
Il tape pas sur le prix.
Tu as entièrement raison, sauf que c'est juste depuis qu'on a augmenté fortement le prix que la consommation baisse. Voilà.
Non, mais donc, la consommation baisse. Mais
dans les faits, c'est depuis qu'on interdit de fumer dans des restaurants, qu'on interdit de fumer dans des réunions publiques. Ma première réunion de conseil municipal, le maire il fumait la pipe dans un conseil municipal. Puis personne ne se ferait ce genre de choses.
À l'époque,
ça paraît normal. Et le fait d'augmenter le prix, c'est ce qui a permis de diminuer la consommation.
Et c'est ce qu'a développé le marché. Il y a plein de gens qui sont détournés sur le tabac illégal, vers le tabac illégal.
Sauf que ça existait déjà avant aussi.
Aujourd'hui, tu sors du métro, il y a des vendeurs de tabac à la sauvette de partout.
Estelle, sauf que la vente de tabac illégal n'a pas remplacé le volume de perte de tabac légal.
Oui,
et donc, ce qui compte, c'est pas de voir le rapport entre l'un et l'autre. Ce qui compte, c'est est-ce qu'il y a plus ou moins de gens qui fument et est-ce qu'ils fument moins qu'avant.
La seule chose en termes de santé publique. Ça, oui.
Voilà. Donc, ça montre que ça marche. Et puis, si des gens veulent payer un impôt, acheter une cigarette, c'est payer un impôt volontairement.
Mais ça, les gens ne s'en rendent pas compte.
Et pour c'est ce qu'il faut.
Oui,
donc moi, ça ne me dérange pas puisque je ne le paye pas, cet impôt-là.
Tu as 8 euros sur 10 qui va à l'État quand tu payes un paquet de cigarettes.
Il y aura une campagne en considérant que l'alcool et le tabac, l'alcool partout, y compris dans des boissons, où elle n'est là que par présence structurelle et non pas en démarche culturelle, comme le vin. Et voilà. Non, moi, ce qui me traumatise, c'est qu'on va encore plus avoir plus de vaporettes. Là, c'est plus possible.
Pourquoi? Oh, on conseille gêne. Ah,
je peux pas. Alors, pourquoi? Je vois des beaux mecs comme ça, des copains.
Oui, c'est vrai que.
On conseille des tétines. Je comprends pas.
Ça aide beaucoup de gens. Ça aide beaucoup de gens arrêtés quand même.
En termes de santé publique, c'est.
Non, mais tout, l'esthétique, enfin, la dignité humaine, machin, la vapeur.
La dignité humaine?
Ah oui, non.
Non, mais là,
je crois que tu dis ça parce que c'est pas élégant. C'est ça que tu veux dire.
C'est plus élégant que
tu mets
toi. C'est plus sexy, tu
mets. Ça veut dire que je suis quand même dans l'addiction, mais je peux pas m'en passer. Alors, d'accord.
Non, mais c'est souvent.
J'arrête.
C'est souvent pour arrêter de fumer.
J'arrête de boire.
Non, Perico. Il y en a plein qui utilisent ça pour arrêter de fumer,
c'est
ça marche.
Oui.
Voilà. C'est pas ce qu'il dit. Il dit l'abstinence, c'est l'abstinence, j'arrête, basta.
Ben voilà, ça permet de, dans l'illusoire, je sais pas qui fabrique des vaporettes, mais
bah, tout le monde maintenant, parce que ça marche. Tu vois. Nous allons passer. Ah, ça, c'est énorme. La polémique du jour, Thibault.
Eh oui. Interrogé sur la Coupe du Monde au Qatar hier et notamment la conscience des joueurs de foot sur un potentiel boycott, la ministre des Sports a expliqué que les joueurs de l'équipe de France n'étaient pas des hommes politiques, ils sont là pour jouer, dit Amélie Oudéa-Castéra qui ajoute, et qu'elle appelle à élever leur niveau de conscience aux footballeurs, mais pas trop non plus. Une sortie dénoncée par Thomas Mauconduit, le joueur de l'AS Saint-Etienne, réplique sur les réseaux sociaux. Il est évident qu'avec ce genre de mentalité, on n'avancera pas. Nous, on vous demande de prendre les bonnes décisions pour l'avenir, pour notre planète, et vous n'êtes pas foutu de le faire.
En fait, c'est quand même hallucinant, Péricoli, parce que la ministre des Sports, là, elle dit carrément les footballeurs sont débiles. Racisme. Mais c'est hallucinant.
Une forme de racisme social.
Oui. Carton rouge.
Non, mais on voit l'intellectuel un petit peu, je ne sais pas si elle était narque ou pas, mais on considère que le football, c'est un sport un peu populaire qui s'adresse à des gens qui ont un niveau intellectuel extrêmement bas. Mais ça rend fou, de même que notre histoire de le prix pour l'auditeur d'RMC qui va pouvoir aller au Qatar. Quel bonheur! Alors, on l'envoie en avion, ça fait un scandale, on envoie quelqu'un de pauvre qui va pouvoir une fois dans sa vie aller au Qatar. C'est pas ce petit voyage qui va augmenter la couche d'ozone. Il faut quoi? Faut qu'on aille en char à voile ou peut-être en char à bœuf et qu'est-ce à Istanbul? C'est insupportable. Moi, je trouve qu'RMC a un geste généreux et tous les gens qui aiment le sport devraient être ravis qu'il y ait quelqu'un de pauvre. Voilà.
Là, vous parlez de.
Non, la réaction de ces gens-là est la même que là.
Vous parlez de notre cadeau RMC qui est d'envoyer deux personnes à la Coupe du Monde pour suivre.
C'est un geste social. C'est un geste social et généreux. Et ceux que ça choque sont des gens, sont des pisse vinaigre.
Amélie Oudéa-Castéra, est-ce qu'elle a outrepassé ses fonctions? Moi, je comprends ce qu'elle veut dire. En fait, au départ, ça part d'un bon sentiment. C'est-à-dire qu'au départ, elle veut dire qu'il ne faut pas leur mettre trop la pression, en fait. Et plutôt pour les dédouaner, mais c'est sa façon
en fait,
de
c'est maladroit.
Parler.
Ce qu'elle essaye de dire, c'est on va les laisser se concentrer sur leur jeu, sur leur football, on va les laisser essayer de remporter cette coupe. Et finalement, ça donne une espèce de pataquès un petit peu maladroit. Maintenant, ce que j'en comprends, moi, ce qu'elle a essayé de dire, c'est qu'on n'est quand même pas très, très loin de l'affaire du char à voile, puisque tu viens d'en reparler, qui avait fait tellement rire Mbappé et peut-être dire qu'il faudrait qu'ils aient eux là, une conscience écologique peut-être un peu plus poussée, mais moi j'ai l'impression que ces garçons
ils
suivraient,
c'est pas eux qui réservent leur avion pour aller au match,
voilà, c'est ça que j'allais dire, ils suivraient si on organisait les choses de manière plus écolo, ils suivraient les garçons très certainement.
Exactement.
Non, t'es pas d'accord?
C'est juste qu'en fait aujourd'hui quand vous êtes joueur de foot, et simplement c'est comme
t'es pris dans
chef d'entreprise, si on t'envoie en avion quelque part, voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Le joueur de foot, il va pas dire le joueur du PSG va pas dire moi je vais aller à Nantes en voiture électrique parce que ça polluera moins, c'est impossible. T'as les transports organisés par les clubs, c'est au club de faire quelque chose, pas au joueur.
Non mais la faute, c'est pas de savoir les avions, etc., c'est la manière dont elle parle. C'est une faute de car.
Voilà.
Il faut pas leur en demander trop. C'est-à-dire, ils sont tellement cons, on va pas leur en demander trop. C'est ça qu'on a compris. C'est pas ça qu'elle voulait dire, j'imagine.
Non, je pense
c'est
pas.
Ça qu'on a compris. Le problème, quand un ministre s'exprime, il doit penser à ce que les gens vont comprendre de ce qu'il dit. Et elle n'aurait pas eu cette même réflexion. Lui serait pas venu spontanément si on avait parlé du bilan carbone des joueurs de tennis.
Complètement. Hein, qui se déplacent largement autant que
ou des joueurs de golf dont certains sont milliardaires eux aussi et qui se déplacent pas tous en classe éco d'une compagnie low cost. Donc c'est pour ça que c'est un côté qui est désagréable, désobligeant. On va pas en faire trois semaines là-dessus.
Après on lui a posé la question sur les joueurs de foot parce qu'il y a la Coupe du Monde au Qatar.
Voilà, donc, c'est il cristallise tout.
Tout simplement.
J'ai bien compris. Oui. Mais sauf qu'on a compris ce que sa subvention voulait dire.
Oui, je crois qu'on a bien, compris. Mais après, elle ne s'exprime pas beaucoup, Amélie Oudéa-Castéra. Donc, effectivement, c'est vrai que sa parole est scrutée. Et là, c'était un petit peu malheureux. On va revenir sur la manifestation du jour.
Et oui, alors que la contestation grandit en Iran après la mort mi-septembre de Mahsa Amini, 22 ans, interpellée pour port de vêtements inappropriés, des milliers de personnes se sont rassemblées hier à Paris pour protester contre la répression du pouvoir territoire iranien. Ils se sont rassemblés devant l'ambassade d'Iran à Paris, des manifestants qui reprochent entre autres le silence d'Emmanuel Macron. Ils ont été repoussés par la police française via l'utilisation de gaz lacrymogène. Selon la préfecture, un policier a été légèrement blessé, un manifestant interpellé pour outrage et rébellion. Pour rappel, à ce jour, plusieurs centaines de personnes ont été interpellées en Iran et 41 personnes au moins sont mortes.
C'est vrai que c'est assez hallucinant, Emmanuel Macron, de se dire qu'on ne peut même pas manifester.
Elle est où la grandeur de l'État français dans un cas pareil? Déjà, on a un président qui est muet sur l'Iran. Moi, je regarde ça, c'est une pétaudière, l'Iran. De toute façon, les gens, ils crèvent de trouille et pourtant, ils sont dans la rue. Ils sont incroyables, les Iraniens, les Iraniennes. Vous avez vu ces femmes qui enlèvent leur voile, vraiment, en direct. Oh, et on sait ce qu'elles risquent. En plus, la pauvre qui a été tuée, hein, je crois que personne n'a doute là-dessus, et torturée dans les geôles iraniennes, et c'est pas qu'elle avait pas de voile, c'est qu'elle était mal portée. Mais vous vous rendez compte, celle qui se dévoile actuellement, le courage de ces femmes. Et nous on se tait et on envoie un petit peu de gaz à nos manifestants. Mais qu'est-ce que c'est que cette manière de
d'y voir? Non, parce qu'en fait, je suis d'accord avec tout ce que tu dis sur les Iraniennes. C'est là, je suis 100% avec, derrière elles, même si c'est très facile de le faire derrière un micro.
Ah bah c'est clair,
de
faire évidemment.
Emmanuel Macron pourrait le dire aussi.
Et leur courage. Non, ce qui est arrivé hier, la manifestation était tout à fait autorisée. On a empêché personne de manifester. Voilà. C'est qu'il y a une règle qui est intangible en termes de sécurité publique, c'est qu'une manifestation ne peut pas s'approcher d'une ambassade et on ne peut pas la laisser dégénérer, même si c'est l'ambassade des pires salopards que la Terre porte.
Là, c'était l'Iran, en l'occurrence.
Il y a un risque après de réciprocité, vis-à-vis de notre ambassade dans les autres pays. Et si nous, on laisse faire, c'est en contravention avec nos engagements internationaux. Et si on met en danger nos propres personnels consulaires et d'ambassade dans d'autres pays où ils diraient, mais vous laissez faire ça chez vous, nous, on laisse faire ça chez vous. C'est la réciprocité. C'est pour ça que si vous avez une manifestation qui s'approche d'une ambassade et qui a l'air d'une manière hostile, en dernier recours, on est obligé de disperser. C'est juste pour ça. C'est pas un message politique pour dire on soutient.
Ah non, je suis sûr que c'est pas un image.
Non, mais c'est bien que vous l'expliquiez, Jérôme Lavrieux, parce que
on peut pas faire autrement. Bien sûr, sinon, on met en risque notre propre personnel dans le monde entier. Et je rappelle qu'on est le deuxième réseau consulaire du monde derrière les États-Unis.
Après, c'est vrai que l'image est rude.
Je sais, mais à un moment,
l'image est rude et c'est vrai qu'il y a un silence assourdissant de la France sur ce dossier. Et en vrai, voilà, on est le pays des droits de l'homme. On mérite, enfin. Ça mériterait quand même qu'on dise un petit mot. Et c'est vrai que c'est étonnant le silence d'Emmanuel Macron là-dessus. Ces femmes sont extraordinairement courageuses.
Parce qu'on est tellement focalisé sur la renégociation et de faire re-rentrer l'Iran dans l'accord de dénucléarisation.
On n'ose rien dire.
Ce qui serait, d'une manière, mettre fin aux énormes souffrances qui est celui du peuple, parce qu'il y a l'embargo qui a été décrété après la décision stupide de Trump de mettre fin à cet accord. Et bien sûr que le président, quand il est à l'ONU, qui serre la main du président iranien Raïsi, c'est pas pour lui dire vas-y, tape sur les femmes.
Non, bah évidemment.
C'est pour dire il faut qu'on négocie et il faut qu'on tu rentres dans cet accord international.
Tu parlais du président de la République, en l'occurrence, elle est de préserver l'extraterritorialité des territoires diplomatiques.
Ok, donc on laisse faire en fait.
C'est la République.
Non,
on autorise la manifestation. On autorise. On applique l'état de droit. Non, quand il y a eu la guerre d'Irak, il y a eu une manifestation monstre, place de la Concorde. La France avait appelé justement à ne pas aller à l'ONU, et Nicolas Sarkozy, je me souviens, j'ai assisté à la conversation, il disait « je ne peux pas laisser approcher l'ambassade des États-Unis, donc je vais donner des consignes aux forces de l'ordre d'utiliser tous les moyens possibles, il n'est pas question qu'il y ait un caillou qui arrive dans le jardin de l'ambassade des États-Unis, c'est l'image de la France, ça nous permet ensuite. » Vous savez,
Mal anticipé, Péricot.
Ça a été mal anticipé.
Mais c'est même pas ça, c'est que ça a été mal expliqué. Si tu expliques
ça, évidemment.
C'est Jérôme Lavrieux qui nous l'explique. Personne ne l'explique. À un moment, quelqu'un du gouvernement explique, le ministre de l'Intérieur dit voilà ce qui se passe, on ne peut pas, et dit exactement ce que vient de dire Jérôme Péricot,
pays où les manifestants peuvent atteindre l'ambassade du pays condamné, jeter des cailloux, voire rentrer, ce sont les dictatures et c'est des pays dirigés par des salauds. Les pays où la démocratie existe et où l'état de droit existe, on protège l'extraterritorialité. Autre chose est dire, nous rompons les relations diplomatiques. Tant qu'il est là, on le protège. C'est la dignité de la République et la grandeur de la France.
Même les salopards.
Voilà. Et donc, les manifestants qui pensaient qu'ils allaient pouvoir accéder à l'ambassade d'Iran pour casser quelque chose, c'est des crétins, c'est tout. Maintenant, ils ont bien fait de manifester parce que cette cause est formidable.
Merci de le rappeler.